100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Artificial intelligence is about getting machines to do things that we recognize as intelligent when people do them.
Bonjour, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Sans aller si loin, l'Agence européenne des droits fondamentaux met en garde sur l'urgence de protéger les Européens. Car ces applications, si elles sont un relais de croissance, peuvent aussi être source d'erreurs et de discrimination. Or, ces applications intelligentes sont aujourd'hui partout. En Europe, pas loin d'une entreprise sur deux utilise déjà cette technologie qui permet à des machines d'analyser leur environnement au lieu d'exécuter de simples instructions dictées par l'homme. Retour sur les nombreuses questions que soulève le recours à ces nouvelles technologies avec le reportage de notre correspondante à Vienne, Céline Béal.
42% des entreprises de l'Union européenne utilisent déjà des technologies liées à l'intelligence artificielle, selon une enquête publiée au Luxembourg sur la base de données de la Commission européenne. Des technologies bien implantées aussi dans le secteur public. C'est pourquoi l'Agence européenne des droits fondamentaux a estimé qu'il était temps de jeter un regard critique sur cette évolution, explique la chercheuse française Élise Lassu, car ces cerveaux électroniques sont partout.
L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est utilisée dans presque tous les domaines de notre vie, même si on ne s'en rend pas compte. Et donc, à partir du moment où presque tous les domaines de notre vie sont touchés, eh bien, pratiquement, tous les droits fondamentaux peuvent être touchés d'une manière ou d'une autre.
Le problème, c'est que seule une minorité des acteurs concernés est consciente des enjeux, que ce soit la protection des données, celle des consommateurs ou la question de la dignité humaine. Élise Lassu, chercheuse spécialiste du droit à la vie privée et de la protection des données, prend l'exemple de la police prédictive, un procédé déjà largement utilisé en Europe. L'intelligence artificielle se nourrit de bases de données existantes, mais qui ne sont pas forcément complètes ou équitables.
Le but d'utilisation de ces algorithmes, c'est de pouvoir prévoir où et quand une activité criminelle pourrait avoir lieu afin de rationaliser l'emploi d'agents de police sur une zone et à un certain moment. Si la police se livre à un profilage discriminatoire et que ce sont ces données provenant de ces pratiques qui ensuite sont utilisées pour construire un algorithme, alors l'algorithme va reproduire voire va renforcer, objectiver un comportement discriminatoire.
Pour éviter ce genre d'écueil, l'Agence des droits fondamentaux de l'UE préconise une évaluation constante des technologies utilisées. Les pouvoirs publics devraient aussi doter les institutions de contrôle de moyens suffisants. Autre point clé, selon le rapport, veiller à ce que les citoyens comprennent mieux ce qu'est l'intelligence artificielle, quand elle est utilisée et comment ils peuvent faire appel d'une décision prise par un algorithme, par exemple concernant l'attribution d'aide sociale ou bien lors d'un diagnostic médical.
Sehr geehrte Damen und Herren, robotische Grüße und herzlich willkommen im Technischen Museum Wien.
Un petit robot blanc doté d'un écran en guise de visage accueille les visiteurs du Musée des Techniques de Vienne. L'exposition intitulée « Une intelligence artificielle ?» veut jusqu'à l'été 2022 permettre aux visiteurs de se confronter justement à ces questions. De sa main motorisée, le robot fait signe d'entrée et affiche un sourire digital. Il a été placé ici par Christian Stadelmann, l'un des deux concepteurs de l'exposition. L'objectif, démystifier l'intelligence artificielle. L'IA ne correspond ni à un futur où les robots domineront le monde, ni à la vision rêvée d'une technologie qui résoudra tous nos problèmes.
Notre but est de décrypter les développements technologiques, sans que nous devions nous plier à l'impératif de faire dans le sensationnel ou à des intérêts économiques. Nous regardons ce que c'est vraiment que l'intelligence artificielle et nous avons une visée éducative.
Cette exposition a été créée en partenariat avec le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mobilité, de l'innovation et de la technologie, un super ministère dirigé par Léonore Gewessler du Parti Vert. Celle-ci a saisi l'occasion de son inauguration mi-décembre pour exposer quelques points d'une stratégie autrichienne en matière d'intelligence artificielle. Le rôle positif que cette technologie peut notamment jouer pour l'environnement et un nouveau programme de subvention pour la recherche dans ce domaine. Mais la ministre s'est aussi fait l'écho des risques.
Mais je veux aussi dire que malgré toutes ces possibilités d'applications innovantes, nous nous efforçons de ne pas perdre de vue les risques potentiels. C'est aussi ce que montre cette exposition. Où sont les limites? Où sont les dangers qui y sont liés?
L'Autriche s'est dotée dès 2017 d'un conseil scientifique pour la robotique et l'intelligence artificielle. Il est composé d'experts dans les domaines techniques, mais aussi dans des domaines sociaux, pour promouvoir le développement d'une intelligence artificielle éthique. Une ambition que la ministre de l'Environnement affirme partager au niveau européen.
Et avec la pandémie de Covid-19, le recours à l'intelligence artificielle s'est encore accéléré. Exemple avec le secteur de la médecine. En France, à Valenciennes dans le Nord, l'hôpital de la ville expérimente un logiciel capable de prédire le nombre de patients attendus chaque jour aux urgences. L'objectif, permettre aux médecins d'anticiper les besoins. Et en France, c'est une première, Lise Verbeck.
Comme beaucoup de services d'urgence, celui de Valenciennes connaît régulièrement des épisodes de tension. Pour éviter de laisser des patients sur des brancards, de les accueillir dans des services inadaptés ou de les transférer vers d'autres établissements, l'hôpital s'est donc doté d'un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui prédit le nombre de patients attendus chaque jour et permet donc d'anticiper les flux. Ce logiciel est développé par la société suisse Calypse. Il s'appuie sur des millions de données anonymisées récoltées depuis 6 ans dans l'hôpital de Valenciennes. Celles-ci sont croisées avec d'autres données, la météo, les flux épidémiques, les événements locaux comme des manifestations ou des matchs de foot ou encore le trafic routier. L'algorithme peut alors faire des corrélations entre par exemple des épisodes de verglas et les entrées aux urgences. Ces algorithmes s'adaptent en permanence et continuent d'être alimentés par des données chaque jour. Une catégorie flux Covid a été rajoutée. Elle est alimentée par les données recueillies dans le secteur dédié à l'épidémie aux urgences. Ces informations sont corrélées avec celles de l'Agence régionale de santé pour établir des prévisions. Le logiciel permet aux médecins de savoir combien de patients devraient se présenter aux urgences avec un taux de fiabilité à 93% hors secteur Covid. Ils peuvent donc ajuster le personnel en fonction et alerter les autres services en aval pour les radios ou les scanners, pour la disponibilité des lits ou les places en bloc opératoire. Un outil précieux qui a l'avantage de diminuer le stress du personnel. Avec la gestion des lits anticipés, c'est notamment autant de temps libéré pour l'urgentiste pour s'occuper de ses malades. À terme, l'ambition est d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout le parcours du patient, de son entrée aux urgences à l'hospitalisation, avec des données plus individualisées comme l'âge ou le sexe, pour ainsi prédire les durées de séjour. Ce système est actuellement en phase de test. Supercomputers, laser light shooters, artificial intelligence arise,
digital currency, no printing paper. En Europe, la Tchéquie occupe la première place en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle. 61% de ces entreprises ont recours à ces cerveaux électroniques. Mais la Bulgarie et la Lituanie, avec plus d'une entreprise sur deux, font aussi partie du peloton de tête. Et là aussi, la lutte contre le Covid a donné un coup d'accélérateur à l'usage de ces nouvelles technologies, sans qu'aucune réflexion ne soit menée sur les risques pour la vie privée que comporte cette stratégie. Exemple avec deux petits pays, la Lettonie et la Lituanie, avec notre correspondante dans les Pays-Baltes, Marielle Vituro.
Des capteurs à reniflement ou à éternuement installés dans une pièce afin de détecter un possible niveau élevé de contamination. C'est la méthode que met au point l'équipe du professeur de médecine Valdis Spirax en Lettonie grâce à l'intelligence artificielle.
Les capteurs analysent l'humidité, la température de la pièce, la circulation de l'air et même certains bruits. C'est ça qui les rend uniques. Si on renifle ou l'on tousse, avec l'intelligence artificielle, il est possible de distinguer quelle personne est suspectée d'avoir des symptômes grippaux en fonction de sa voix, si elle est éraillée ou non. Intelligent
sensing systems. Au début de la pandémie, le gouvernement letton a lui-même lancé un appel aux chercheurs pour trouver de nouveaux moyens de lutter contre le virus de la Covid-19. Ce système de capteurs à reniflement peut être utilisé dans tous les lieux publics, notamment les écoles. La Lettonie a une certaine expérience en matière de recherche et de santé, entre autres car depuis de nombreuses années, les scientifiques du Centre pour la biomédecine de Riga cherchent à éradiquer les souches résistantes de tuberculose dans le pays. Chez son voisin, la Lituanie, les nouvelles technologies sont mises au service des restrictions de déplacement entre les municipalités. Un système est mis en place après l'explosion du nombre de contaminations à la Covid-19. Arūnas Paulauskas, le commissaire adjoint de police, explique le système à la radio lituanienne.
Le policier dispose d'une application dans son téléphone portable qui lui permet de vérifier, avec le numéro de la plaque d'immatriculation, les informations concernant le véhicule. Nous cherchons maintenant à améliorer cet outil pour que l'on puisse savoir si une personne n'a pas déjà été refoulée à un barrage de police quelque temps auparavant.
Peu connue pour être à la pointe en matière de développement des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, la Lettonie et la Lituanie ont pourtant pris une certaine avance depuis une vingtaine d'années. Les enseignements poussés en mathématiques et en sciences, l'industrie militaire très présente à l'époque soviétique, ont ouvert la voie à ces recherches. Et la question de la protection des données personnelles ne suscite pas d'inquiétude dans ces deux pays baltes, comme le confirme Aine Ramonaite, politologue à l'université de Vilnius, membre d'une organisation de volontaires. Elle s'est aussi engagée auprès de la police pour aider à réaliser les contrôles de déplacement dans le contexte de la lutte contre la pandémie.
Je n'ai encore contrôlé personne qui s'est inquiété de la question de la protection de ces données personnelles. Il n'y a eu aucun débat public sur cette question. Les gens comprennent que de toute façon, les autorités savent déjà où tu habites. Et puis, il n'y a encore eu aucun scandale majeur concernant ces données.
Habitués à être surveillés par les autorités depuis l'ère soviétique, en Lituanie et en Lettonie, l'heure n'est donc pas encore au débat public sur la protection de la vie privée. La confiance est de mise.
Il s'agit de deux univers a priori étrangers l'un de l'autre, la protection de la nature et la scène des gamers, les adeptes des jeux vidéo en ligne. Et pourtant, en Allemagne, les deux ont décidé d'unir leurs forces pour une bonne cause, la préservation des forêts de notre planète. Quand les geeks de l'informatique soutiennent les militants écologistes, c'est le récit de Julien Méchaussi depuis Berlin.
Save the Jungle, sauver la jungle, c'est le nom de l'opération réalisée conjointement par la grande organisation de protection de l'environnement, le WWF, et une dizaine de joueuses et de joueurs les plus connus d'Allemagne. Le principe, une partie du célèbre jeu League of Legends, diffusée en direct sur la plateforme de vidéo en ligne Twitch, et des spectateurs qui peuvent faire des dons reversés directement au WWF. Près de 50 000 personnes ont ainsi assisté à la première session de Save the Jungle. Joueur confirmé, Niklas Korlotz est à l'initiative de ce projet inédit qu'il a lui-même animé.
C'est une pratique très répandue dans l'univers du jeu en ligne. J'aime bien comparer ça à un musicien de rue que l'on croiserait. On s'arrête pour l'écouter, on trouve qu'il joue bien et on décide de lui donner 1 €. C'est exactement le même principe dans l'univers du streaming, de la diffusion en ligne. On s'arrête sur une partie, on se sent diverti en regardant ses joueurs, parfois pendant des heures, voire des jours. Ça donne envie de les soutenir pour qu'ils puissent vivre de leur passion et on fait un don. Par exemple, de 10 euros.
Spende ich dir hier 10 Euro oder sowas.
Oh, der Hiel! Die Heilung!
Mais cette fois, les dons ne reviennent pas aux joueuses et joueurs, mais bien au WWF. Plus de 22 000 euros ont ainsi été récoltés en à peine quelques heures. L'organisation non gouvernementale finance ainsi des projets de préservation des forêts en Afrique, en Amazonie ou encore en Australie.
En cette période avec le coronavirus, il faut trouver de nouvelles possibilités pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Normalement, les organisations comme le WWF interpellent directement les gens dans la rue en essayant de les convaincre de faire des dons. Mais cela n'est plus possible avec la pandémie et le confinement. Il a fallu donc innover avec cette idée de mettre à contribution les joueurs en ligne via la plateforme de vidéo Twitch. Et nous savions que cette communauté présente un vrai potentiel. potentiel, avec plein de gens prêts à s'engager pour la bonne cause.
Une manière de toucher un tout autre public, mais aussi, selon Niklas Korlotz, de combattre les clichés sur une jeune génération qui serait peu politisée, peu engagée.
Il y a toujours ce préjugé sur la jeune génération qui passerait tout son temps sur des réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok, qui ne s'intéresserait à rien. Mais c'est totalement faux. La plus grande preuve en est le mouvement Fridays for Future. Partout dans le monde, des écoliers manifestent pour changer les choses. Et ce que nous avons fait à notre niveau le démontre également. Les jeunes sont prêts à s'engager, à militer pour le climat, pour l'environnement et la protection de la nature.
Dabei ist es unsere Welt, die in Gefahr ist.
Surpris par le succès de l'expérience Save the Jungle, l'ONG spécialiste de la protection de la planète a déjà annoncé vouloir répéter régulièrement l'exercice.
Now the war for the push to war with Iran.
C'est un autre geek mondialement connu et qui paie cher le piratage de milliers d'échanges confidentiels. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, ne sera finalement pas extradé vers les États-Unis où il est poursuivi pour espionnage. Une victoire après une longue bataille judiciaire, mais la justice britannique refuse par contre sa demande de remise en liberté sous caution. Julian Assange est donc toujours détenu dans une prison de haute sécurité de l'Est de Londres, Béatrice Leveillé.
Amnesty International ne comprend pas qu'après ce refus d'extradition, Julian Assange soit maintenu en détention dans des conditions d'isolement assimilées à une forme de torture pour le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture. Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty.
Il est effectivement détenu dans des conditions qui sont très très difficiles, à l'isolement, dans une prison de très haute sécurité où il n'est pas autorisé à sortir plus d'une heure par jour. Donc ce sont des conditions qui forcément ont un impact très fort à la fois sur le physique et sur le psychique.
Wikileaks, l'organisation fondée par Julian Assange, a publié des centaines de milliers d'informations confidentielles, y compris des vidéos attestant de crimes de guerre sur les terrains d'opération de l'armée américaine, en Afghanistan et en Irak. Poursuivi aux États-Unis pour espionnage, Julian Assange risque 175 ans de prison. Pour Guillaume Ledy, qui a coécrit « Dans la peau de Julian Assange » publié par Actes Sud, il a pris tous les risques parce qu'il s'est donné une mission.
Depuis le début des années 2000, Julian Assange s'est auto-confié une mission qui est celle de rééquilibrer l'asymétrie entre les puissances étatiques et économiques d'un côté et les citoyens comme vous et moi de l'autre. Et pour lui, avec ses compétences et ses centres d'intérêt, qui sont les mathématiques, la philosophie politique et bien évidemment Internet, et donc des compétences de hacking qu'il a développées autour de ça, pour lui le numérique est toujours, il me semble, l'outil fondamental. Et pour ce faire, il a trouvé un moyen. Ce moyen, c'est la diffusion de documents secrets, puisque dans son analyse, c'est par le secret que ces puissances parviennent à maintenir leur pouvoir sur ce lieu qui était un lieu au début vierge de toute intrusion des États et des entreprises, qui était Internet. Donc sa ténacité, elle vient de cet aspect mission, de sa volonté également de changer le monde, hein, il l'a dit à plusieurs reprises, et de son courage, puisque l'une de ses devises, c'est « le courage est contagieux ».
Ses avocats ont tenté de faire valoir sa qualité de journaliste, mais pour la justice britannique, le recours aux hackers pour obtenir des informations n'est pas du journalisme d'investigation. Julian Assange est malgré tout soutenu par de nombreuses organisations de défense de la liberté de la presse, comme Reporters sans frontières, Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.
Nous, si on a choisi de le défendre, c'est parce qu'il a apporté une contribution incontestable et vraiment importante au journalisme. Julian Assange est vraiment un personnage à part. Ça n'est pas un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'était Chelsea, autrefois Bradley Manning. C'est lui qui a outrepassé son secret pour divulguer des informations via Wikileaks. Julian Assange, ça n'est pas non plus, à strictement parler, un journaliste, parce que ça n'est pas quelqu'un qui, au sens classique, croise des informations. C'est quelqu'un qui fait en sorte de récupérer des informations et qui apporte quand même une forme de traitement éditorial. Je suis allé au New York Times et le responsable juridique du New York Times, lorsque je l'ai interrogé en lui disant quels sont les plus grands dangers pour la liberté de la presse aux États-Unis, m'a répondu la procédure contre Julian Assange.
Julian Assange, un symbole ébranlé par une bataille judiciaire qui va se poursuivre puisque les États-Unis ont fait appel de la décision de la justice britannique.
Accent
en Europe à la réalisation. Françoise Grelot pour nous écouter à toute heure. Rendez-vous sur notre site rfi.fr ou via notre podcast sur votre plateforme d'écoute. À demain.